bel été 2022. Canicule en plus, on dirait.
Ouais, on va se relaxer, se poser.
Ouais, écouter du bon son, de la bonne zik.
Avec des interviews aussi, des annonces de concerts.
Des festivals en pagaille, non convidés, hein, s'il vous plaît.
Des chroniques de l'été, des musiques variées, du thé ou du café, du reggae. En somme, des rimes en « et ».
Décibel Été, c'est du lundi au vendredi à 18h30 avec des animateurs radioteurs PFMiens, mais alors cette fois-ci en maillot de bain.
Décibel Été, c'est aussi des cadeaux, des CD, des places de concert, des places de ciné.
Que du bon pour se décontracter sur les ondes du 99.9 MHz et sur le site web radiopfm.com. Voilà, bonjour, bonjour à tous et à toutes auditeurs de Radio PFM. J'ai utilisé le générique de Décibel Été de l'an dernier. Et donc, c'était par plaisir puisque on avait fait préparer avec Kevin un petit générique. Et c'était par nostalgie. Et dans ce Décibel, donc 2023, été 2023, puisqu'il n'y a pas de Décibel Été pendant ce mois d'août, pour ce jeudi 3 août, je vais vous parler de Jane Birkin. Je vais continuer son hommage que j'ai commencé dans mon 4 quarts, qui va être diffusé pour la dernière diffusion ce samedi-ci, ce samedi qui arrive. Et je vais vous parler un petit peu de BD, je vais vous parler un petit peu de Jérôme Bailly et du Beffroi d'Arras. Et voilà, ça fait à peu près tout. Un peu de Poésy et de Paul Verlaine. Mais on va commencer tout de suite avec un hommage à Birkin avec le superbe titre Quoi, qui a été écrit uniquement avec des paroles de Serge Gainsbourg. Et les compositeurs, c'est deux différents. Et c'est différent de Serge Gainsbourg. Mais alors, je trouve que c'est un titre qui est très abouti, et qui est sur l'album Lost Song. Et donc, on va commencer avec Quoi de Jane Birkin. Bienvenue dans Décibel Été.
Gramophone resterait coup des cendres. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête au bout des cendres. Toi, tu me dis que tu ne vaux pas la corde pour te pendre. Star, laisser ou joie et douleur, c'est ce que l'amour engendre. Sois au moins conscient que mon cœur peut se fendre. Sois, dit en passant, j'ai beaucoup à apprendre. Si j'ai bien sûr de comprendre. Amour cruel, comme un duel, dos à dos et sans merci. Tu as le choix des armes. Pensez-y, pensez-y, et conçois que c'est un amour à la vie. Quoi de notre amour fait resterait que des cendres. Moi, j'aimerais que s'arrête pour descendre. Toi, tu préfères mourir que de te rendre. savoir va comprendre. Amour cruel, comme en duel, dos à dos et sans merci tu. Pense-y, et conçois que c'est un amour à la vie. Notre amour fait resterait que descendre. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre.
Voilà, c'était le titre Quoi de Jane Birkin, l'original, donc la version originale, avec des paroles de Serge Gainsbourg, et uniquement des paroles, car là, il n'avait pas fait la musique. Et je voulais vous lire un petit extrait de Le Monkey Diaries, le livre qu'avait sorti Jane Birkin sur ses mémoires, hein, puisqu'elle écrivait, elle a écrit son journal intime, toute son enfance, et jusqu'au décès de sa fille Kate Barry. Et justement, je voulais rendre hommage à Kate Barry, qui était photographe de profession et qui est née en 1967. Et elle raconte, elle était à Londres à cette époque-là, puisque John Barry, c'est un compositeur de musique de film. Hein, voilà, c'est un grand compositeur. Et donc, elle raconte le quotidien de sa ville, de sa journée au moment de la naissance de Kate. Tout a commencé le 7 avril, juste avant minuit. Je suis tombé sur King Road alors que j'allais boire le thé chez Ma and Pa. Je crois que ce qui l'a démarré, je marchais un peu vite pour semer un vieillard inoffensif, mais vraiment bourré. Il essayait de me parler presque en criant. J'étais embarrassé parce qu'il avait plein de monde autour de nous. Soit j'ai glissé, soit mon talon s'est coincé dans un trou. C'est en tout cas ce qu'a suggéré le vieillard, tandis que j'étais étalé sur le sol, offerte à la contemplation de tous. C'est ça la cause, faut porter plainte. Deux jeunes types m'ont aidé à me relever. Ils avaient peur que je commence le bébé là, sur le trottoir. Ils m'ont assise au faire du thé, mais j'étais tellement gêné par toutes ces histoires, je me suis tiré vite fait. J'ai terminé mon shopping, j'ai pris un taxi, je suis allé chez Ma and Pa. En rentrant, j'ai trouvé John en train de se raser la barbe. J'ai fait le dîner, je me suis lavé les cheveux, j'ai senti deux ou trois pointes de douleur dans la soirée, mais le bébé était si actif que je ne me suis pas inquiété. Nous sommes allés au lit assez tôt et John s'est endormi comme une bûche après avoir avalé des somnifères. Je ne pouvais pas dormir, j'ai sorti Dr. Spock. Mon estomac continue à se durcir, j'avais des douleurs légères, j'ai fait les 100 pas autour du lit, j'ai minuté mes contractions avec la montre de John, j'ai essayé de le réveiller deux fois mais il dormait vraiment profondément. Alors j'ai compris ce qui se passait. J'avais des contractions toutes les 5 minutes et elles étaient très régulières, pas comme les pics de tout à l'heure. Donc je suis monté à l'étage, j'ai voulu téléphoner à la London Clinic. Ça m'a pris un moment pour trouver le courage, puis je l'ai fait dans la douleur. Quand la douleur partait, j'oubliais à quel point elle était forte. J'ai pensé qu'il était possible que j'en fasse trop, que quoi qu'il en soit, j'ai réussi à joindre une infirmière de la maternité et j'ai eu une contraction pendant qu'elle cherchait la matrone qui a dit qu'il devait préparer ma chambre. Je suis redescendu, j'ai repassé ma robe, mis un peu de maquillage pour ne pas ressembler à un monstre et j'ai réveillé John. Il était mort de fatigue et ça lui a demandé un effort considérable pour pouvoir ouvrir un œil. Mais il s'est levé et on est parti avec ma valise et Monkey. Monkey, c'est sa peluche d'enfance, hein, c'est un petit singe, et puisque on la voit en couverture avec ce petit singe en peluche, puisque c'est le nom de son journal intime, ça s'appelle Monkey Diaries. C'est édité chez Fayard, hein, c'est sorti depuis 2018. Et je l'avais acheté justement pour préparer l'interview quand elle devait venir au casino avec Didouda. Et malheureusement, trois jours avant le concert, ça a été annulé, à la déception de beaucoup de monde, évidemment. Et donc, on n'a pas pu l'entendre écouter les chansons symphoniques de Gainsbourg avec sa voix. Et malheureusement, on ne pourra pas l'écouter plus jamais. Il y a une captation sur YouTube avec Alcaline. Il y a 1h30 de concert et vous pouvez avoir là le concert qu'on aurait dû avoir dans le casino et d'Arras. Et malheureusement, le président de Didouda était navré quand je l'ai interviewé. Mais voilà, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Elle a rejoint son Serge là-haut. Et on pense aussi à Kate Berry, qui était partie plus tôt en 2013 rejoindre le Serge Gainsbourg, mais pas son père, évidemment. Et donc voilà, je voulais vous passer à un petit duo avec Alain Chamfort dans l'album Rendez-vous, qui est sorti bien après, en 2004. Et donc ça s'appelle « T'as pas le droit d'avoir moins mal que moi ». C'est un duo avec Alain Chamfort.
T'as pas le droit d'avoir moins mal que moi. Si j'ai mal, c'est pas normal que toi, tu n'es pas mal. T'as pas le droit d'avoir moins mal que moi. Ta douleur à ma douleur se doit. Si je verse sans une goutte de mon sang et que tu n'en verses que sang, c'est blessant. T'as pas le droit alors que je déguste de pas souffrir.
Tout mon angoisse.
voilà, c'est le beau duo Jane Birkin et Alain Chamfort. T'as pas le droit d'avoir moins mal que moi. C'est une espèce de dispute de culpabilisation et de douleur par rapport à une séparation qu'on imagine affective et douloureuse. Je voulais vous parler un petit peu de BD, et de petit roman graphique qui est vraiment intéressant. C'est un artiste pluridisciplinaire français qui s'appelle Jonathan Job Nkondo. Alors c'est un petit bouquin vraiment en format A5, très petit. Le quart d'une feuille A4, quoi. Et donc, c'est un gars qui a travaillé un peu dans l'animation. Et c'est avec une contrainte, beaucoup, il explique en prologue, il a un personnage, il n'y a que la couleur jaune, le noir et le blanc. Il y a un personnage, un élément rond et un élément métallique, et c'est tout. Voilà, alors il y en a plusieurs parfois. Et donc, il y a 200 dessins qui sont réunis. C'est un petit format, un peu comme des Marvel, mais un petit bouquin de poche. Et il n'y a aucune bulle, aucun dialogue. C'est juste des situations comme ça, un peu abstraites, un peu étranges, de personnages qui sont au-dessus de tôles ou qui jouent avec un fil en acier. C'est très épuré, il n'y a pas de décor. Et donc ça s'appelle Hello, c'est H-E-2-L-O avec un W. C'est de Jonathan Job Nkondo. Et ça coûte 14 euros. Et c'est vraiment étonnant. C'est vraiment... En plus, on peut s'amuser à dessiner pour ajouter de la couleur si on veut. Enfin, c'est étonnant. C'est ce qu'on appelle souvent un roman graphique où c'est plus de l'illustration. Et c'est vraiment intéressant. J'ai découvert ça dans la librairie Cap Nord. Et donc, je voulais vous en faire part. Et je voulais aussi vous parler du festival de PFM Écoute que coûte, qui est une grosse semaine qui commencera le lundi 28 août. Et c'est Jérôme Bailly qui va y participer, qui est un journaliste de Scarpe Sensé. Mais avant ça, on va vous faire écouter un petit peu de poésie, c'est-à-dire notre fameux Paul Verlaine. Et là, c'est un poème très connu de Verlaine, c'est Mon rêve familier, et c'est dit par Jean Villard. On écoute Jean Villard qui récite du Paul Verlaine.
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même.
Alors je suis désolé, il y a un problème technique avec cette platine, on doit la changer. Voilà, c'est les aléas du direct. Donc il n'y aura pas de Jean Villard qui récite du Paul Verlaine. Je vais vous passer Autotune. Vous savez, c'est un groupe qu'on avait fait venir pendant le festival Fête de la Chanson de l'an dernier, je crois, c'était ça. Et donc ils font du mélange de deux tubes. Là, c'est à la queue leu-leu avec Allumer le feu. Ça va changer complètement d'ambiance. Mais je m'étais vraiment bien marré à faire l'interview et pendant le concert. C'est des musiciens qui sont talentueux. C'est un groupe de Lille. Ça s'appelle Autotune, et ils vont nous jouer allumer le feu, le ça s'appelle comme ça. On écoute.
Nous ne sommes pas parés à la queue.
culotte. À la queue-le-le. Complètement starvés. C'est des super musiciens de balle, autotune. Et donc, ils mélangent comme ça deux tubes à la queue lolo et puis allumer le feu. Et donc, ça donne quelque chose que j'adore personnellement. Et c'était Radio PFM qui les avait fait venir au festival Didouda, au fait de la chanson. Et donc, c'était un bon souvenir, y compris l'interview que vous pouvez réécouter en podcast sur le site. Et voilà, je voulais vous parler du festival. Il y a Jérôme Bailly, qui est journaliste à Scarpe Sensée, qui a fait un travail très fin de capture du son et qui nous avait déjà travaillé l'an dernier sur le fait de capter du son. Et il a fait un reportage sur le beffroi d'Arras. Et donc, j'aurai pas le temps de tout vous passer parce que c'est des longs reportages de la France. Et donc, mais au moins, vous parlez du début. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée sur l'antenne de PFM. Et donc, vous pouvez écouter 4 quart en hommage à Jane Birkin samedi à 14h, mais pour l'instant on écoute le reportage de Jérôme Bailly sur le beffroi d'Arras qui s'appelle Un lieu de rassemblement, et je vous souhaite une bonne soirée sur les ondes du 99.9 Radio PFM.
C'est un lieu de rencontre. Combien de fois on se dit rendez-vous au beffroi?
Oui, ça va, ben vous allez faire la connaissance de Julien.
C'est le repère également, dès qu'on approche de la ville, ce beffroi se dresse et on sait qu'on arrive à Arras. Et puis aussi, ça rythme toujours la ville.
Il y en a qui dansent sur la place du marché.
Moi, pour travailler au pied du beffroi, je ne regarde pas ma montre, j'écoute, j'entends les ritournelles, j'entends les cloches sonner les heures, sonner les demi-heures. C'est toujours un élément indispensable dans la vie de la ville.
Attention à la tête.
Rendez-vous au beffroi. C'est ce que je dis souvent lorsque je veux rejoindre quelqu'un à Arras. Le beffroi est un repère dans la ville, une identité qui ne remplace aucun appareil moderne de communication. Le Beffroi d'Arras, avec sa place des héros et sa grande place, est un lieu de rassemblement. Sous le Beffroi, les anciennes carrières sont chargées d'histoire. Devant le Beffroi, les fêtes et le marché du samedi matin grouillent de monde. Et du haut du Beffroi, des touristes s'empressent. Et le carillonneur joue des airs solitaires. Et si j'allais entendre ce qui se passe sous le Beffroi, du côté des boves d'Arras, avec David Netter, jeune guide arrageois.
Tout au long de la visite des boves, vous faites tout le côté droit de la place des Héros, la place qui est en face de l'hôtel de ville, le côté droit de la place lorsque le Beffroi est derrière vous. D'accord, donc je vous propose d'aller directement sur place. À partir de là, je vous demande de bien faire attention à vous. Ici, ça y est, vous êtes dans les boves. Donc vous pouvez sentir que la température n'est pas si fraîche. En fait, la température est constante dans les boves, il fait 11 degrés toute l'année, quelles que soient les conditions à la surface. Et donc le taux d'humidité est de bien de 80%, ce qui est assez important quand même. Alors au niveau de ce mot, les boves, j'imagine que c'est un mot qui peut vous intriguer un peu, c'est pas un mot qu'on emploie si couramment. En fait, le mot bove, on a perdu son étymologie, il faut partir d'un point très important, c'est-à-dire que la ville d'Arras a été détruite pendant la Première Guerre mondiale. Elle a été détruite à plus de 80% et reconstruite après. Et donc pendant ce conflit, on a perdu énormément de documents et d'archives de la ville, beaucoup d'écrits ont été détruits, et on a en même temps perdu l'étymologie, donc l'origine du mot bove, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dire d'où vient ce mot. Alors en revanche, on sait ce qu'il désigne. Le mot bove désigne ces carrières de craie qui ont été exploitées donc à 12 mètres de profondeur entre le 9e et le 12e siècle à Arras. D'ailleurs ici, on est dans une salle d'extraction de pierre.
Ces boves vont être connectées au réseau des caves des maisons d'Arras. C'est ainsi que l'on a très souvent à Arras des maisons qui sont constituées de deux niveaux de caves, plus d'un troisième niveau qui sont les anciennes boves d'Arras.
Pour se développer encore un peu plus, elle décide d'accueillir le marché. Et donc on entreprend la construction des deux places, qui sont les places qu'on connaît dans le centre-ville, hein, la place des Héros et la petite place, qui sont des places qui datent du XIIe siècle, construites avant tout pour accueillir un marché. Alors le seul petit souci, c'est que ces deux places et le centre-ville commencent à se développer au-dessus des carrières. Donc en y réfléchissant bien, on s'est dit qu'il y avait un risque d'effondrement, que ça devenait dangereux d'extraire des blocs de craie ici à cause de l'activité humaine qui se développe à la surface, donc pour éviter tout accident, on arrête d'extraire de la craie ici au XIIe siècle. Je voulais également vous dire que les boves, c'est le plus ancien réseau de souterrains qu'on retrouve donc sous Arras. Vous avez également d'autres carrières de craie qui se sont ouvertes un peu plus tard au sud de la ville, ouvertes notamment à l'époque où la ville était sous domination espagnole, c'est-à-dire qu'entre 1525 et 1659, on était rattaché aux Pays-Bas d'Espagne. Et donc les Espagnols décident d'utiliser la craie pour toutes les constructions. Ils décident de ne plus utiliser le bois, surtout pour éviter les incendies dans la ville et pour essayer d'embellir la ville d'Arras. Et donc on commence à construire avec de la craie. Donc on a énormément besoin de matières premières. Le seul problème, c'est qu'on ne pouvait plus l'avoir dans les boves à cause du risque d'effondrement qui était toujours présent. Donc les hommes sont partis au sud de la ville pour ouvrir d'autres carrières de craie. Et pendant la Première Guerre mondiale, l'armée britannique a décidé d'utiliser ces carrières. Ils ont finalement relié ces carrières avec des tunnels, de façon à créer deux grands réseaux capables d'accueillir un maximum de soldats, c'est-à-dire 24 000 soldats britanniques qui sont restés cachés une semaine avant l'offensive du 9 avril 17 pour la bataille d'Arras, justement, entre les Britanniques et les Allemands.
Sur un amas d'existence, la résistance apparaît comme seule évidence, vérité à narrer. Le chant de nos erreurs résonne à l'heure où des armées d'esquifs à nos côtes amarrées.